بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار بالعلم الظلمات وجعله سبيلا موصلا إلى الجنات، ورفع أهل العلم العاملين به درجات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أخوة الإيمان، comme nous sommes d'hier, nous allons commencer notre série de cours aujourd'hui sur les livres mentionnés dans le programme. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le Qawaid al-Arba. C'est comme ça que nous nous sommes convenus. Et avant que le frère ne commence à lire, nous allons parler un peu de l'auteur. Et lorsque nous avions eu à parcourir quelques récits tirés du livre Al-Ibanat al-Kubra, nous avions déjà expliqué pourquoi est-ce qu'il est important de connaître l'auteur avant d'étudier un livre. Parce que c'est ça la voie de ses prédécesseurs. Il est important que l'on sache de qui il prend. Parce que notre religion est une religion qui a une chaîne de transmission authentique. La religion de l'islam est une religion qui a une chaîne de transmission authentique. C'est pour ça qu'il est important de savoir celui de qui on prend. Et c'est pour ça que Imam Ibn Sirin, comme l'a rapporté Imam Muslim rahimahullah dans l'introduction de Sahih Muslim, il a dit "Kana an-nas la yas'aluna 'an al-isnad." À l'époque, les gens ne posaient pas des questions sur la chaîne de transmission. Parce qu'à l'époque, les gens ne mentaient pas. Ils parlent de quelle époque? C'est l'époque où tout était organisé, où les choses suivaient leur cours, où les gens savaient que les savants, ce sont les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. On ne prenait que des compagnons du prophète et de ceux qui sont connus pour avoir étudié des compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait aucun problème. Tout suivait l'ordre. فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةِ Lorsque la communauté a connu le trouble, lorsque les gens sont entrés dans l'islam et ont voulu joindre la philosophie à l'islam, lorsqu'ils ont voulu adapter la philosophie à l'islam, parce que les gens sont entrés dans l'islam avec des anciennes idéologies, et il y en a qui ne voulaient pas abandonner ces anciennes idéologies. Mais ils étaient convaincus que l'islam c'est la voie authentique, c'est la voie de la vérité. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu joindre les deux. Ils ne voulaient pas abandonner les conceptions philosophiques qu'ils avaient et en même temps ils voulaient suivre l'islam. Ils ont voulu joindre les deux. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de troubles. Alors quand il y a eu ces troubles-là, après la mort d'Uthman radiallahu anhu, parce qu'il faut comprendre le trouble, tout ça, ça a eu lieu presque au même moment. Parce qu'à l'époque d'Abu Bakr, à l'époque d'Umar, il y a eu beaucoup de futuhat. Il y a eu beaucoup de conquêtes. Et beaucoup de pays sont devenus des pays musulmans. Donc ces personnes qui avaient embrassé l'islam avec leurs idéologies, et comme ils n'étaient pas éduqués par le prophète Mohammed sallam, comme les compagnons du prophète, comme les tabi'in qui avaient été formés par les compagnons du prophète, ils ont voulu joindre entre ces idéologies-là et l'islam. Et en même temps, il y a eu la fitna qui a eu, et le prince des croyants, Uthman radiallahu anhu, a été assassiné. Ce qui a aggravé la situation. Alors, pour résoudre ce problème, les pieux prédécesseurs se sont référés au texte du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont rendus compte que l'islam, c'est la religion de la chaîne de transmission. Ils ont fait ce qu'on appelle al-istimbat. C'est-à-dire qu'en étudiant les textes du Coran et de la Sunna, ils ont déduit que l'islam est une religion de chaîne de transmission. Comment est-ce qu'ils ont compris? Ils ont dit que, ils ont compris que si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se serait réveillé plein de révélations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait cela. Il a choisi un enseignant parmi les anges qui a enseigné, qui a transmis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il recevait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc compris que pour qu'une chose soit religion et authentique, il faut que la chaîne de transmission respecte cette démarche. Il faut que ça aille jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que ce soit d'après celui de qui tu vas prendre, d'après lui, ainsi de suite jusqu'au prophète, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on se sente à l'abri de l'égarement. Voilà pourquoi ils ont dit inna hadha al-ilma dinun. Cette science, tout ce que vous écoutez dans WhatsApp, tout ce que vous lisez de relatif à la religion, c'est ça votre religion. Ce avec quoi les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'ils ont entendu ici, de là, de celui-ci et d'un tel. Donc c'est ça votre religion. C'est quoi donc la solution? Si c'est ça votre religion, faites donc attention. Regardez ce qui vous prenez votre religion. Il faut que ce soit la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a, de qui Allah subhanahu wa ta'ala vous a recommandé de prendre. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux hommes de science quand vous ne savez pas. Donc nous devons de poser la question, de nous rassurer que celui de qui nous apprenons est quelqu'un de science, quelqu'un connu de ce domaine. Voilà pourquoi ils ont dit إن هذا العلم دين. Voilà comment les pieux prédécesseurs ont fait de cette parole une règle générale. Chaque fois que quelqu'un devait se prononcer en religion, il fallait qu'il soit une personne reconnue dans ce domaine. Voilà pourquoi Imam Maliki dit, je n'ai pas commencé à enseigner jusqu'à ce que 70 savants me recommandent d'enseigner, me disent que tu peux déjà enseigner. Et voilà pourquoi lorsqu'on a interrogé Cheikh Souleymane al-Ruhayli, et c'est une parole que les gens qui s'agitent ne peuvent pas avoir le courage de traduire. Cette parole-là, ils n'auront jamais le courage de la traduire. On a interrogé Cheikh Souleymane al-Ruhayli, hafidhahullah, quand est-ce qu'il est permis à un étudiant d'enseigner? Parce que ce qu'il va enseigner, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'il lui est permis d'enseigner? Il a dit, quand l'un de deux choses est réuni, alors l'une des deux choses est réunie, qu'il soit recommandé par au moins l'un de ses enseignants qu'il a tenu et qui maîtrise son niveau et qui témoigne qu'il est déjà apte à transmettre. Ça, c'est la première. Donc, chaque fois que quelqu'un se place devant vous, c'est votre droit de lui demander qui est-ce qui te recommande, de qui est-ce que tu as étudié et qui est-ce qui te recommande parmi tes enseignants. C'est ton droit. Mais même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'avez-vous pas vu dans les hadiths avec les bédouins? Allahu amaraka bidhalik. Si on demande, s'il était permis de poser cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de nous autres? Un bédouin dit, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a réellement ordonné de dire ça? Et le prophète ne se fâchait pas, il disait oui. Il disait, donc tu doutes sur moi comme on fait souvent. C'est la religion d'Allah. Mais ces bédouins, ils avaient une âme incorrompue. Parce qu'ils savaient que malgré tout, on ne peut pas avoir le courage de mentir au sujet d'Allah. C'est ça la différence avec ces anciens et nous. Il savait, c'est pour ça. Il ne connaît pas le prophète Mohammed, même sans connaître sa moralité, mais il savait qu'il était impossible que quelqu'un mente au sujet d'Allah. C'est pour ça que, même quand on lui posait la question, alors qu'il n'adorait pas Allah, hein, mais quand on lui posait la question, il disait la vérité. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Donc à l'époque, ils n'avaient pas le courage de mentir au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que les gens font aujourd'hui. Donc c'est du droit du croyant de poser la question à celui qui se tient devant lui pour parler de la religion d'Allah. Qui est-ce qui t'a recommandé? Où est-ce que tu as étudié? Donc, le cher a dit que c'est ça la première condition. Il a dit, au moins un savant parmi ceux qui l'ont tenu. Il faut qu'au moins un savant parmi ceux qui l'ont tenu le recommande. Sinon, à la base, il faut plusieurs. Deuxièmement, s'il n'y a aucun savant qui le recommande, qu'il ait au moins un diplôme d'un institut reconnu qui atteste qu'il a fait des études dans cet institut. Il faut que l'institut soit aussi connu et soit un institut crédible et fiable. Si aucune de ces deux conditions ne sont réunies, alors arrêtons de faire la complaisance que nous avons fait et qui a amené la communauté où elle a amené la communauté aujourd'hui. Parce que des gens qui n'ont jamais humé le deuil de la science, parce qu'ils sont éloquents, on les a poussés devant. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas l'éloquent. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayan la sihra. Hein? En réalité, certains éloquents relèvent de la magie. Certains éloquents relèvent de la magie. C'est pour ça que, quel que soit l'éloquence d'une personne, il faut que cette personne ait un parcours qui lui donne l'aptitude de s'exprimer en islam. Combien de fois est-ce que les gens se sont égarés à travers leur éloquence? Parce qu'ils ont ressenti qu'ils étaient éloquents, ils ont pris leur place qui n'était pas la leur. Donc il faut qu'on arrête cette complaisance, parce que c'est cette je ne parle pas seulement de la communauté musulmane de Fumbot, mais de la, c'est un problème qui touche la communauté musulmane en général. Et ça me rappelle, Mohamed racontait une histoire ici hier, quand on a vu un vieux qui a l'âge de nos parents étudier. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il étudie alors qu'il a cet âge et tout? Il vient s'asseoir devant quelqu'un qui est même plus jeune que lui pour étudier. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de complaisance. Pour parler, il faut être un savant. En Arabie Saoudite, pour s'exprimer, il faut être un savant. Tu ne peux pas te lever et prendre le micro parce que tu es éloquent. Il faut que tu aies un parcours qui te donne l'attitude de t'exprimer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de désordre. Et regardez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec les compagnons. Quand il voulait envoyer des compagnons, est-ce qu'il a envoyé n'importe qui? Il a envoyé ceux qu'il avait formés, ceux qu'il connaissait avoir formés. Il a testé de leur niveau. Il savait qu'il pouvait comprendre ce qu'il dit. Regardez le hadith, la recommandation faite par Allah subhanahu wa ta'ala à Mu'adh radiallahu anhu lorsqu'il est allé à Yémen. Innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab. Allez lire le développement de ce hadith dans les livres des savants. Or, Mu'adh n'a pas eu besoin que le prophète lui explique tout ça parce qu'il avait déjà ce niveau. Donc c'est pour dire que ceux qui s'expriment, ceux qui se doivent de s'exprimer en islam, ce sont ceux qui ont étudié l'islam. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître l'auteur d'un livre lorsqu'on veut étudier un livre. Parce qu'on doit, être sûr de la chaîne de transmission. Parce que quand on prend un auteur, on lit ses pensées, on lit ses déductions, des textes. Donc il faut qu'on se rassure que c'est quelqu'un qui a les bonnes, bases, qui canalise sa compréhension par la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, qui est l'auteur des Qawaid al-Arba, c'est un porte flambeau parmi les porte flambeaux de la Sunna, un mujaddid, un réformateur parmi les réformateurs de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que beaucoup de grands savants contemporains ont écrit des livres sur le Cheikh, et parmi les livres qui ont été écrits, c'est ce livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidahullah, qui lui-même était un autre porte flambeau de la Sunna. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il est connu de tous. Et le titre de livre dit Min Alami Al-Mujaddidi, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Wal-Imam ibn Taymiyyah, Wal-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Rahimahullah. Il dit parmi les têtes, parmi les réformateurs de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce livre, il parlait de ces trois réformateurs qu'il a cités. Mais ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est qu'il n'a cité que trois grands réformateurs. pour comprendre la place de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, parce que quand on parle d'Imam Ahmad, et après on cite un autre savant, ça veut tout dire de ce savant. Vous savez qui est Imam Ahmad? Imam Ahl Sunnah. Lorsque le dogme pur a failli s'éteindre, c'est par lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maintenu ce dogme pur. Quand d'autres personnes avaient lâché, quand d'autres savants parmi les imams avaient trouvé des excuses, avaient faibli, Imam Ahmad a gardé la tête haute et a accepté de mourir pour que la aqidah sahiha, le dogme pur, soit préservé. Quand les khalifas, on parle des khulafas, ce n'est pas les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Le khalifa, c'est celui qui était à la tête des musulmans du monde entier. Quand le khalifa avait décidé de changer de dogme à cause de l'influence de ceux qui l'entouraient parmi les mauvais savants, il voulait que les gens croient que le Coran est une création et non la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé et qu'il n'a ni parlé à Moussa ni à qui que ce soit. Alors que rien que cette conception soit quelqu'un de l'islam. Donc, si on avait suivi cette conception, on aurait pu être tous des non-croyants, des mécréants. Mais Imam Ahmad, il a gardé la tête haute. Et il a accepté de prendre sur lui toute la pression qu'il avait. Et chaque fois qu'on le menaçait et qu'on le faisait venir devant l'imam et on lui posait la question, il répondait « Al-Qur'an kalamullah »« Ghayru makhluqin »« Nazala bihi Jibril »« Ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam » Et il disait « Man qala al-Qur'an »« Man qala al-Qur'an makhluqin fahuwa kafir » Alors qu'il savait que ça pouvait lui coûter la mort. C'est pour ça qu'il y avait des imams plus assez anciens que Imam Ahmad. Mais à cause de sa résistance et de sa fermeté, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Et c'est lui à l'époque que les gens voyaient comme savant, qui entourait le khalifa et qui avait fait cette influence, qui était à l'origine de cette idéologie, vous ne le connaissez même pas. Vous voyez comment Allah élève les gens. Alors qu'à l'époque, c'était eux qui étaient connus et ils étaient autour d'eux. Mais qui aujourd'hui prie pour eux? Quand on ne prie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudit, c'est déjà bien. Parce que certaines personnes, quand elles se rappellent d'eux, ils prient qu'Allah les maudisse. Alors que Imam Ahmad, rahimahullah, je suis sûr que dans le monde, il ne peut pas passer une seule journée quand on ne prononce le nom d'Imam Ahmad, rahimahullah, sans qu'on ne lui fasse des prières. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ce grand imam. Donc quand on parle d'Imam Ahmad, il parle de quelqu'un avec lui, comme le cheikh il a fait. Il a choisi trois personnes. Quand il commence par Imam Ahmad et le fait suivre par Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ça veut tout dire. Et rien que son laqab, Cheikh l'Islam. Parce que quand on dit dans le domaine de la science que Cheikh l'Islam, sans préciser, c'est Ibn Taymiyyah. Donc ça veut dire que c'est le cheikh de Cheikh l'Islam. Parce que quand on dit Cheikh l'Islam, sans spécifier, ça veut dire qu'il s'agit de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Après avoir mentionné Ibn Taymiyyah, Cheikh Ozan a parlé de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et c'est ce qui nous montre la place de ce grand imam. Et atteste clairement que c'est un réformateur parmi les réformateurs de cette communauté. Et je crois qu'il n'est pas inconnu dans le milieu des gens de la Sunna. Parce que si aujourd'hui on nous appelle Al-Wahhabiyya, c'est par rapport à lui. Parce qu'il s'appelle Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et regardez, subhanallah. Tellement ceux qui détestaient Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et qui combattaient sa da'wa se sont aveuglés que pour qualifier ceux qui les suivent, l'ont qualifié de Wahhabi en oubliant qu'Al-Wahhab c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils disent Al-Wahhabi, il y a que nous sommes des partisans de Al-Wahhab, ça veut dire que c'est une bonne chose. Parce que Al-Wahhab c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont voulu. ils ont voulu caricaturiser la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'avait rien ramené de nouveau. Et parmi les livres que nous allons étudier ici, nous avons deux de ces livres, Qawaid al-Arba et Usul al-Thalatha, et vous allez voir c'est quoi la méthodologie du Cheikh. Il ne dit rien sans ramener un verset ou un hadith. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. Les gens veulent suivre leur passion. Et les réformateurs veulent que les gens retournent aux sources. Et c'est ce que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait pour être combattu. Et c'est normal. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été combattu? Non. Il a été combattu. C'est même pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de faire descendre sur lui la révélation, l'a préparé moralement. Pour qu'il sache que bientôt il sera chargé d'un lourd fardeau. Qala inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons révéler sur quoi? Des paroles lourdes. Qui est ce Coran? Ça veut dire que celui qui accepte de porter le Coran, de vivre selon le Coran, se doit d'être solide moralement. Même si physiquement il est faible, moralement il doit être fort. Parce que celui qui se cramponne au Coran, en réalité se cramponne au fil le plus solide. Quand il tombe sur le Urwati, Al-Wusqa, c'est la branche ou alors le fil le plus solide. Donc, tous ceux qui suivront les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, c'est que le suivisme du prophète sallam, comme il se doit, implique, c'est qu'on sera combattu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Am hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma ya'tikum matalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu » حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre ici que comment pensez-vous que vous allez entrer au paradis, accéder au paradis sans passer par ce par quoi ceux qui ont accédé au paradis avant vous sont passés? Islamiquement on a dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et regardez, méditez bien sur ces liens qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait chaque fois lorsqu'il parle de grandes adorations. Même dans le jeûne, Allah dit « Kama kutiba ala alladhina min qablikum ». Ça veut dire que le jeûne qui sera agréé auprès d'Allah, c'est le même jeûne qui avait été prescrit à ceux d'avant et qui avait été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne nous reste plus qu'à suivre. Même dans le jeûne, il ne nous reste plus qu'à suivre. Donc, on ne peut pas accéder au paradis sans passer par ce par quoi les premiers qui ont accédé au paradis sont passés. Ceux-là ont été combattus à cause de leur attachement à la révélation. Donc, tous ceux qui appelleront les gens vers ce sur quoi ils étaient seront également combattus. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a été farouchement combattu, mais il a été soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que tous ceux qui combattent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala seront soutenus par Allah. Mais n'oubliez pas que ce soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala sera proportionnel à votre attachement à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on peut être sur la vérité et être éprouvé. Je l'ai toujours rappelé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettre en pratique. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sans aucun doute, fait partie des réformateurs de cette communauté et est un porte-flambeau de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses écrits attestent. Ça, c'est ce que nous pouvons dire en résumé de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Maintenant, pour parler du livre en question, le livre que nous allons étudier, Qawaid al-Arba. Lorsque nous avons étudié Al-Ibane al-Kubra, nous avons parlé des choses ou alors des voies et des moyens qui permettent de savoir la valeur d'un livre. Qui peut me rappeler ce qu'on avait dit? Ah, ça c'est un problème. Parmi les choses, Nam.
On devrait dire qu'on peut voir si dans le livre, ce qu'on dit, il y a des renvois de la page.
Non. Mais je veux autre chose. Il y a l'auteur du livre. Parmi les choses qui font la valeur d'un livre, il y a l'auteur du livre. C'est pour ça que le premier livre, c'est quel livre? C'est pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui suit après? Non? Les hadiths, pourquoi? Parce que c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths du prophète Muhammad sallam, quels sont les livres des hadiths qui passent avant? Bukhari et Muslim, pourquoi? À cause de l'auteur, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, à cause des conditions, leur attachement à la sunna, la méthodologie qu'ils avaient empruntée pour recueillir les hadiths. Donc, la place de l'auteur a une influence sur l'œuvre, sur la valeur de l'œuvre. Quelqu'un qui est connu pour ne se baser que sur Qala Allah wa Qala Rasul, comme Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, quand il rédige un livre, les gens de science se déversent dans ce livre. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont trouver que ce qui s'accorde avec le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui montrent la valeur d'une œuvre, c'est le comportement des savants vis-à-vis de cette œuvre. Regardez Qawaid al-Arba. C'est un livre qui a été expliqué par presque tous les savants de la Sunna. Donc, si tu vas acheter le livre de l'explication de Qawaid al-Arba, tu dis oui, le cher Qawaid al-Arba, on ne pourra pas te servir jusqu'à ce que tu précises le cher que tu veux. Parce qu'il y a plus d'une centaine. Expliqué par les savants de la Sunna. Taïf, pourquoi toutes ces explications? Parce que l'imam, ceux qui ont suivi les pas des pieux prédécesseurs, leur science se rapproche de la science des pieux prédécesseurs. Ça veut dire qu'ils sont pleins de science. Et c'était quoi la méthodologie des pieux prédécesseurs? C'était la méthodologie du prophète parce que c'est le prophète qui les a éduqués. Or, la méthodologie du prophète, comme il l'a dit, « Oti yajawa mi'al kalim » Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des courtes phrases qui renfermaient beaucoup de science. C'est pour ça que le prophète sallam parlait peu. Et les compagnons du prophète sallam, pour expliquer ce que le prophète a dit, ont dû développer. Mais même eux, comme ils avaient été éduqués par le prophète sallam, même dans leur réplication, ils étaient concis. Et pour expliquer ce qu'ils ont expliqué, les savants qui avaient été éduqués par eux avaient besoin de développer les choses assez, parce que plus le temps passe, plus la science s'affaiblit. Le niveau de compréhension baisse. On a besoin de développer. Taïf. Et comme c'était des gens pleins de science, lorsqu'ils disaient des courtes phrases, ces courtes phrases renfermaient beaucoup de connaissances. C'est pour ça que chaque fois qu'un savant lit Qawaid al-Arba, il se rend compte qu'il a compris des choses qu'il n'a pas retrouvé dans les explications qu'il a lues. Et c'est ainsi qu'il se décide de rajouter ces choses, et c'est comme ça que les choses seront toujours rajoutées. Parce que c'était des gens pleins de sciences qui s'exprimaient en peu de mots. Regardez Kitab Tawhid et regardez leur méthodologie. Qui mémorise le début de Kitab Tawhid? C'est quoi le début du Kitab al-Tawhid? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kitab al-Tawhid. C'est quoi? Non? Qawl Allah Ta'ala. Vous voyez comment il commence? C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup à dire. Mais ce qu'ils disaient était plein de science, si bien que parfois ils ne se référaient qu'aux références et se taisaient. Et c'est pour ça que c'est les savants qui explique les livres des savants, et c'est ceux qui ont étudié qui expliquent les livres des savants. Quand il a dit Kitab al-Tawhid wa Qawlullah Ta'ala, si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas comprendre cette méthodologie. Tu ne peux pas comprendre Kitab al-Tawhid wa Qawlullah Ta'ala. Parce qu'il sait que ceux qui vont lire ces livres, ce sont ceux qui ont étudié et vont comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas appris tout ça, quand il ouvre le livre, il pense qu'il a compris alors qu'il n'a pas encore commencé à comprendre. C'est pour ça qu'al-ilmu bi-talaqi. Al-ilmu bi-talaqi. pour étudier, il faut s'asseoir auprès de ceux qui ont étudié, il faut s'asseoir auprès des savants et prendre. C'est comme ça qu'on étudie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Oui. Maintenant, Mohamed, Iqra.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الله بن سعد القواعد الأربع صلى الله عليه وسلم هذا الأشر أن يدعو الله في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مبارك وأن يجعلك مبارك أينما كنت وأن يجعلك من كل شكر وحبك من صمرة وأن لست مصاب إلا وضعيف يا أبا الوان السعادة
حسبك. طيب الشيخ دي بسم الله الرحمن الرحيم علم نعم نعم أسأل الله الكريم نعم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة الدساش أسأل الله الكريم رب العرش العظيم جيمتلو الله سبحانه وتعالى le Seigneur du trône نعم immense Seigneur du trône immense رب العرش عظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة كالله سبحانه وتعالى s'occupe de toi sur terre ainsi que dans l'au-delà. Al-Muwala, c'est qu'Allah سبحانه وتعالى prenne soin de toi sur terre ainsi que dans l'au-delà. Et ce début témoigne de la miséricorde qu'avait ce cher pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est un manque de suivisme. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé comme un miséricorde pour l'humanité tout entier. Ça veut dire que celui qui suit le prophète comme il se doit d'être une miséricorde pour l'humanité tout entier. C'est pour ça que le cheikh commence par cette parole qui exprime clairement la miséricorde qu'il a envers la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par prier pour nous autres qui allons lire ce livre, qui allons profiter de ses enseignements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de nous ici sur terre ainsi que dans l'au-delà. Parce que celui dont Allah subhanahu wa ta'ala en prend soin, il ne peut être égaré. Il l'oriente vers le droit chemin ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Assalullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, ayatawallaka fi dunya wal-akhira. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de toi le jour de la résurrection. Wa yaj'alaka mubarakan ina ma kunta. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse où que tu sois. Que veut dire cette introduction? C'est pour qu'on comprenne que tout ce qui suit, non, pourra nous permettre de concrétiser cette invocation. Non? C'est pour si quelqu'un prie pour toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse où que tu sois. En réalité, il ne peut t'orienter que vers ce qui pourra te permettre d'être béni. Donc ça veut dire que, à travers cette introduction, Cheikh Mohammed ibn Abdullah a voulu qu'on comprenne que s'il prie pour nous, qu'Allah prenne soin de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Ça veut dire que ce vers quoi il va nous orienter, c'est la voie qui, Inch'Allah, en empruntera, nous serons béni et Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin de nous. Sinon, on ne peut pas concevoir que le cheikh fasse une invocation et nous oriente vers un chemin qui va à l'encontre de cette invocation. Asallallahu al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, ayatawallaka fi dunya wal-akhira, wa yaj'alaka mubarakan ayna ma kunta. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse où que tu sois. Où que tu sois, dans ton commerce, dans ton adoration, dans ton mariage, dans l'élévation de tes enfants, tout. Où que tu sois. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. Et j'ai prié qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse être du nombre de ceux qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde quelque chose, qu'ils se montrent reconnaissants. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur comble par un bienfait, ils se montrent reconnaissants. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ. Ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, sa patience se montre endurant. وَإِذَا أَذْنَبَ فَغْفِرْ. Ceux qui, lorsqu'ils commettent un péché, une turpitude, se repentent. Se repentent. Il dit, فَإِنَّ هَؤُلَا إِلْتَلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَ. Allahu Akbar. Regardez les savants et leur miséricorde. Pour que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il t'a donné ce conseil. Il dit que, certes, ces trois-là sont la base du bonheur. عُنْوَانُ السَّعَادَ. Ce sont des choses qui orientent vers le bonheur. Si tu te comportes de cette façon, alors sache que le bonheur est un acquis pour toi. طيب c'est quoi la preuve? قال الشيخ اذا اعطي شكر. J'ai prié qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse être du nombre de ceux qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un bienfait, se montre reconnaissant. Parce que le fait de se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à la base est une obligation. C'est une recommandation divine obligatoire. Nous devons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, en réalité, il n'existe que deux catégories de personnes. Ceux qui sont ingrats et ceux qui sont reconnaissants. C'est pour ça que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'origine de l'homme, dans le verset que nous avons rappelé hier, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ هِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ imma shakiran wa imma kafura. Imma, ça veut dire qu'il n'y a pas une troisième situation. Il n'existe que deux situations. Et par conséquent, il n'existe que deux catégories de personnes. Les reconnaissants et les ingrats. Les reconnaissants, c'est ceux qui utilisent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé pour ce pourquoi Allah leur a accordé cela. Les reconnaissants, c'est ceux qui utilisent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé pour ce pourquoi Allah leur a accordé. Et les ingrats, c'est ceux qui utilisent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé pour autre chose que ce que Allah leur a accordé. C'est comme ça. C'est pour ça que il faut se poser les vraies questions. Nous qui sommes en forme là, nous qui jouissons d'une bonne santé, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette forme, cette bonne santé? Nous qui avons des moyens, pour ceux qui ont des moyens, pourquoi est-ce qu'Allah nous a accordé ces moyens? قال الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. Recherche à travers ce qu'Allah t'a accordé, la dernière. Donc, c'est pourquoi il t'a accordé ce qu'il t'a accordé, c'est pour que tu recherches la dernière demain. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Mais l'origine, la base, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé ce qu'il t'a accordé pour que tu puisses l'adorer. Ça veut dire que, à la base, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créé que pour un but qu'il a lui-même précisé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais puisque Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il a créé mieux que qui que ce soit, il a créé autour de nous ce dont nous avons besoin. Ça veut dire qu'il a créé ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Pour nous. Afin qu'on puisse l'adorer. Puisqu'il nous a créé, pour l'adorer, il a créé ces choses pour nous. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Il a créé pour vous tout ce qui existe sur terre. Et il vous a créé pour l'adoration. Alors, ça veut dire qu'en réalité, il a créé ces choses-là pour que ces choses vous permettent de vivre pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé. Donc, le reconnaissant, c'est celui qui utilise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ces choses-là. Et c'est pour ça que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné lui, la vue, les membres, c'est pour qu'on l'adore, comme il se doit. C'est pour ça qu'il dit, Imalu ala Daouda Shukra, œuvrez la famille de Daoud en guise de reconnaissant, en guise de reconnaissance. Donc, pour se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce qu'il nous a accordé comme bonne santé et moyens, nous devons vivre avec cela sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïf, c'est quoi la preuve que ça mène au bonheur? La preuve que ça mène au bonheur, c'est qu'en réalité, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme bienfait, lorsque nous nous montrons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça a comme effet? Non? ça s'augmente. قال الله تعالى واستأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. Et rappelle-toi, lorsque ton Seigneur décréta, si vous vous montrez reconnaissant, je vous augmenterai en bienfait. Donc pour préserver un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, que devons-nous faire? Nous devons de nous montrer reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça explique ce que les savants ont toujours dit. Si vous voulez que votre pays change, vous voulez changer la situation d'une communauté, d'un groupe de personnes, non, ne vous en prenez pas aux dirigeants. Ne vous en prenez pas aux dirigeants. Soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Commencez déjà par vous et réformez. Parce que si vous étiez dans le bien avant, non, ça veut dire que si avant vous étiez dans le bien et que ce bien a changé, c'est que vous n'avez, c'est parce que vous n'avez pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous aviez été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il devait vous augmenter en bienfait. Donc si vous n'avez pas connu cette augmentation en bienfait, ça veut dire que vous n'avez pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ça c'est si le dirigeant était bien. Mais si le dirigeant n'était pas bien, ça veut dire que si nous avons eu ces dirigeants, c'est parce que nous le méritons. Et c'était une épreuve pour nous, pour que nous sortions de l'ère sociale en nous réformant. Donc pour sortir de cette situation, il faut se réformer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرَ نِعْمَةً أَنْعَمَ بِهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas un bien qu'il a accordé à un groupe de personnes jusqu'à ce que ce bien change ce dans quoi ils étaient avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur accorde le bienfait. Donc c'est quand on change qu'Allah subhanahu wa ta'ala renverse la situation. Nous vivions au Cameroun, il n'y avait pas de guerre. Le Cameroun était connu comme un pays de paix. Qui sont ceux qui se montraient reconnaissants envers Allah, qui ont prié comme ça là et qui ont dit Alhamdulillah, qui ont fait des gestes en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette paix qu'il nous a accordée alors qu'on voyait des pays en guerre autour de nous? Qui sont ceux qui se sont montrés reconnaissants? Même parmi nous, ne parlons pas des autres, nous qui sommes ici. Qui sont ceux qui reconnaissaient ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui priaient qu'Allah préserve ces bienfaits? ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Nous avons utilisé cette paix pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour outrepasser les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc arrêtons de nous attaquer aux faux problèmes. Le vrai diagnostic c'est ça. Qui sont ceux qui se sont montrés reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà pourquoi Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il nous oriente vers ce qui nous permettra d'accéder au bonheur. قَالَ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُوْطِيَ شَكَرَ. Qu'Allah fasse que vous soyez du nombre de ceux qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un bienfait, se montre reconnaissant. Vous ne voyez pas que nous avions besoin de ce rappel? Qui sont ceux qui ont été reconnaissants vis-à-vis de ces grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi nous? Et la reconnaissance, pour qu'elle soit reconnaissante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit reposer sur trois piliers. Le premier pilier, c'est reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître ce que ce bienfait émane d'Allah subhanahu wa ta'ala et non de ses efforts personnels. Parce que c'est clair, non? Et il y a parmi nous des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé certains bienfaits. Mais c'est parce qu'ils sont plus intelligents que tous les autres. Non? C'est parce qu'ils sont plus intelligents que tous les autres. Il y en a qui sont plus intelligents. Prenons l'exemple de ce centre. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui sont plus intelligents que Youssouf Ramadan, qui ont même recherché et qui ont même déployé des efforts? Donc ça veut dire que ce n'est pas le fruit de l'effort de Youssouf Ramadan. C'est la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme ça que nous devons l'apercevoir. Il faut être reconnaissant, reconnaître le bienfait d'Allah intérieurement. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il ne vous atteint aucun bienfait sans que ce bienfait ne provienne d'Allah. Il faut reconnaître cela. La bonne santé que nous avons aujourd'hui, ceux qui sont malades, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. Cette bonne santé qui est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala provient d'Allah et nous devons les reconnaître cela intérieurement. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est œuvrer en guise avec ce bienfait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que nous devons utiliser, pour le cas de la santé par exemple, cette santé. Non, dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala agrée sur les voies qui permettent d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vue n'est-elle pas un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Taïb, regardez comment nous nous comportons. Surtout avec les téléphones portables, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, il fallait beaucoup de choses pour faire le mal. Il fallait beaucoup de gymnastique. Mais aujourd'hui, c'est facile. Il suffit juste de se fermer dans une chambre et ouvrir le téléphone. On peut voir tout ce qu'on veut. Et parfois, ce qui fait mal, c'est que si on entend un bruit, si quelqu'un frôle la porte, qu'est-ce qui se passe? On éteint le téléphone et on est pris de peur. Parce qu'on ne veut pas que la personne voie. Alors qu'on était sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans accorder aucune importance au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala porté sur nous. Cheikh Abdurazak dit que le geste d'une personne qui se comporte de cette façon, il dit que la peur qu'il a eue quand il a vu une créature dépasse encore l'acte qu'il a commis. Parce que cette peur, c'est une peur qu'il devait vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas voué à Allah, il l'a voué à une créature. Ça peut même tomber dans le shirk. Vous voyez? Taïf. Donc, nous devons être reconnaissant. Et être reconnaissant, c'est préserver le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala des péchés et l'utiliser dans la soumission. Et en parlant de la vue, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être après le ramadan de revenir sur une maqal. C'est une maqal. Il a écrit deux fois, le Cheikh Abdul Muslim Abbad. Cette année, il a écrit deux. Le maqal, c'est comme, je ne sais pas comment vous appelez, on appelle ça en français. C'est comme des journaux que le chef publie souvent dans son site. Des articles, voilà. Non, des articles. Il a publié deux articles sur le même thème avec le même titre. Il a dit, prenez garde de vos yeux. Préservez vos yeux de la perte de la clairvoyance et de la vue. Quand il parle de la clairvoyance, c'est la perte de la foi. Parce que le fait de poser les yeux sur des images, sur des choses illicites, peut entraîner la mort du cœur et entraîner la perte de la clairvoyance. Et il est connu qu'en même temps, regarder trop dans ces appareils nuise à la vue. Donc c'est pour ça qu'il a rédigé cet article. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir sur l'article. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est de comprendre que le deuxième pilier de la reconnaissance, c'est utiliser le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est œuvrer avec ce bienfait. Comme Allah a dit, « I'malu ala Daouda shukra » œuvrer en guise de reconnaissance, c'est-à-dire avec les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Que c'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé l'opulence, qu'il dépense en fonction de son opulence. Et donc que c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a restreint les biens, qu'il dépense en fonction de sa restriction. Ça veut dire que même celui qui est pauvre n'a pas une excuse. Il doit œuvrer avec le peu qu'il a. Parce que le même paradis que le riche recherche, c'est le même paradis que le pauvre recherche. Mais seulement, chacun le recherche en fonction de ses moyens. C'est pour ça qu'on peut avoir peu de moyens et avoir plus de récompenses. Parce que le peu qu'on a dépensé est proportionnel à ce qu'on a. Quelqu'un peut dépenser plus alors que cela n'est pas proportionnel à ce qu'il détient. Donc il faut, c'est ça la reconnaissance. C'est rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et le troisième pilier c'est quoi? At-tahadduf bin ni'amillahi. c'est parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, proclame-les. Mais il faut savoir ce que c'est que proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est dit Alhamdulillah? Les frères, j'ai 30 taubes, hein? Masha'Allah, Alhamdulillah, c'est les bienfaits d'Allah. Non, c'est pas ça. Proclamer, parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on se rappelle de ses bienfaits. Quand tu vois quelqu'un passer démuni et qui te rappelle des bienfaits qu'Allah t'a accordé, dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi afani mimma abtala bihi kathiran min ibadi. C'est ça, proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en se rappelant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala quand c'est nécessaire, à condition que l'ostentation n'entre pas dedans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il parlait des bienfaits, il disait « Ana sayyidu waladi adam wala fakhar ». Méditez bien sûr la parole du prophète. Il dit « Je suis le maître des fils d'Adam, voilà Fakhar. Et je précise qu'il n'y a pas de vantage là dedans. Parce qu'il avait besoin qu'il exprime cette réalité. Qu'il fasse ressortir ses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala quand c'était nécessaire, mais il précisait que c'était sans vantage. Donc, voilà les trois piliers de la reconnaissance. Qala, wa yaj'alaka mimman idha ibtulia sabara. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse être du nombre de ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, patientent, se montrent endurants. Taïb, c'est quoi la preuve que cela mène au bonheur? Le fait d'être patient. Quel est le bonheur absolu? Qui peut me dire le bonheur absolu? C'est quoi le bonheur absolu? Non? C'est accéder au paradis, c'est ça la grande réussite. La réussite absolue, c'est accéder au paradis. Famanzou, c'est un des nari ou autre, la djanna faqade, faqade faz. Taïf, Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport aux endurants, innama yuwafa sabiruna ajrahum bi ghayri hisab. Et vous connaissez le hadith où le prophète sallam a annoncé que 70 000 entreront au paradis sans jugement. Allah dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui sont rétribués sans jugement sont des endurants. Parce que le jugement, c'est un problème, hein. Même quand tu vas aller au paradis, le simple fait que tu sois soumis au jugement, vous imaginez le stress dans lequel ou alors dans lequel les gens seront le jour de la résurrection, quand tu sauras que tu fais partie de ceux qui seront soumis au jugement. Parce qu'il y a trois étapes, il y a trois choses. Il y a ceux qui auront au paradis sans jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dira, allez au paradis. Hein? C'est moi, Allah, vous allez au paradis. Sans commentaire, vous allez au paradis. Ça, c'est le plafond. Ceux qui auront au paradis sans jugement. Et au cas, ça fait parmi ces derniers. Ukash ibn Mihsan, radiyallahu anhu. Quand le prophète avait fait cette annonce, Ukash a dit au prophète, prie Allah pour que je sois parmi ces derniers. Il a dit, tu fais partie de ces derniers. Une deuxième personne a demandé, le prophète a dit, si on ouvre cette porte, ça ne va pas finir. Finalement, on va mettre tout le monde au paradis sans hisab, alors que les gens doivent œuvrer, les gens doivent faire l'effort. Donc c'est pour ça que le professeur avait fermé cette porte, mais il a fermé car Okash était déjà entré. Vous voyez comment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bienfaits d'Allah se déversent sur certaines de ses créatures, comment il les déverse sur certaines de ses créatures. Comme ça, Okash fait partie de ces derniers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ces derniers. Donc, ceci nous montre l'importance de l'endurance. Donc, nous avons dit qu'il y a trois étapes. Ceux qui auront au paradis sans jugement. Et ceux qui seront jugés, mais qui, chaque fois qu'ils seront soumis, leur jugement sera ce qu'on appelle al-ard, C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur parlera de leurs actes. Et ils vont reconnaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala les mettra au paradis. Mais parmi les croyants, ceux de la communauté du Prophète sallam, comme le prophète a dit, Man nuqish al hisab udhiba. C'est lui qui devra répondre à tous les détails, il sera châtié. Imaginez-vous, qui est celui qui peut répondre à tous les états sans faillir? Rien que, prenons un seul cas, rien que la vue. Prenons le dossier de la vue, délaissons tous les autres membres. Prenons le dossier de la vue. Qui est celui qui pourra répondre à tout ce qu'il a vu sans faillir? Donc c'est pour ça que c'est lui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala interrogera sur sa vue. Et lui demande de répondre de ses actes, finalement il va faire un tour en enfer. Prophète dit Manou Kishal Hisab Uddib. Aïcha, quand il a écouté ce hadith, elle s'est étonnée. Il a dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Amma man utiya kitabuhu bi yaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Celui-là aura un jugement léger, un calcul léger. Le prophète a dit, Zalik al-arb. Ça, c'est le arb. Le arb, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui parlera de ce qu'il a fait. Et lui, c'est mon, il va reconnaître. Et Allah lui pardonnera. Mais c'est lui qui devra répondre. Pourquoi tu as vu tel? Est-ce pour ça que je t'avais accordé la vue? Il ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'il ne pourra pas donner les réponses justes à toutes les questions qui lui seront posées. Et quand on n'aura pas la bonne réponse, il va falloir faire un tour en enfer pour se purifier. Parce que le paradis, c'est une demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée aux bons. C'est pour ça que n'accédera au paradis illa man atallaha bi qalbin salim. Même si tu es croyant et tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur corrompu, il va falloir purifier ce cœur. Et le seul endroit où ces cœurs pourront être, ou alors le seul endroit où ces cœurs pourront être purifiés ce jour, ce sera en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ceci nous montre l'importance de l'endurance. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on est confronté aux épreuves, il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on doit endurer. C'est un acte d'adoration. Regardons plutôt ce qu'on peut gagner en endurant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà aidé. Il nous a expliqué ce que c'est que cette vie dans le Coran. Il nous a prédit des choses qui arriveront coûte que coûte. Nous serons éprouvés, Allah nous a dit. أم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent qu'ils vont dire que nous croyons sans être éprouvés. Nous serons éprouvés. Mais quelle est l'attitude à adopter lorsqu'on est éprouvé? قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Certes, nous vous éprouverons par des choses comme par des manquements liés aux membres, aux moyens, aux biens, aux fruits, à la nourriture. Il y aura la faim, toutes ces épreuves-là existeront. Et chacun connaîtra l'une de ces épreuves dans sa vie. C'est un acquis. On perdra l'un de ses membres, on perdra un membre de la famille, quelqu'un qu'on aime, ça arrivera un jour. Il viendra un jour, on va galérer. Il n'y a personne qui peut vivre au même rythme du jour au lendemain. Et ni jusqu'au jour, jusqu'à son dernier jour. Non. Donc il y aura ces épreuves-là. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme conduite à tenir lorsque nous connaîtrons ces épreuves? Écoutez la suite du verset. Allah, après avoir dit ce qui arrivera, il a donné la conduite à tenir. Il a dit, Wabashir Sabrin, regardez comment Allah donne la conduite à tenir. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Qui sont ces endurants-là? Alladina ila afabatum musibatun. Ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils sont frappés par une épreuve, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Généralement, nous ne disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un que lorsque on perd un membre de la famille, alors que c'est toutes les épreuves. Non? Quand l'enfant commet une bavure et que vous considérez que c'est une épreuve, rappelez-vous, dites Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce que c'est une parole pleine de science. Eh bien, rappelle-nous. quand tu te dis inna lillah, j'appartiens à Allah. C'est lui qui est, c'est lui yani, avec qui je suis touché par cette épreuve appartient à l'épreuve même appartient à wa inna ilayhi rajiun, et nous retournerons tous vers Allah. Regardez comment, regardez l'effet que ça peut faire au cœur. Nous retournerons tous vers Allah, il est le meilleur juge. Pourquoi se précipiter? Pourquoi s'embrouiller? Pourquoi ne pas s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et endurer et bénéficier et de la récompense des endurants et du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est un jugement sans faute. Donc c'est ça le sens de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Taïb, c'est quoi la récompense de ceux-là? Fa'ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ceux-là reçoivent les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde d'Allah, et ceux-là sont sur les sur le droit chemin. Parce que c'est lui qui reçoit l'éloge d'Allah. Même l'éloge du prophète Mohammed sallam, c'est là l'entrain vers la guidée. C'est pour ça que ceux-là sont les guidés. Donc, on ne peut pas sans endurance, c'est pour ça que nous devons travailler l'endurance. Nous devons cultiver en nous l'endurance dans l'éducation de nos enfants, dans la relation que nous entretenons avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la relation qui existe entre nous et nos épouses, dans la relation que nous entretenons avec nos semblables. Nous devons cultiver l'endurance. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wal'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasu bilhaqi wa tawasu bilsabr. Pas le temps, l'homme est certes dans la perdition sans exception, l'homme est dans la perdition, ensuite vient l'exception illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, wa tawasu bilhaqi, qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité, wa tawasu bilsabr, et qui s'enjoignent mutuellement dans l'endurance. Il faut l'endurance. Et c'est facile d'écouter le rappel et de secouer la tête. Mais sachez que l'endurance auquel on fait allusion, c'est l'endurance qu'on se doit d'avoir lorsqu'on vient d'être éprouvé. Lorsqu'on vient vous remettre la convocation. C'est là. C'est ce que tu vas dire. C'est là que l'endurance, c'est cette endurance-là qui compte. C'est le comportement que tu vas adopter. Est-ce que tu vas te précipiter? Est-ce que tu vas être calme? Parce que quand tu reçois une provocation, une convocation, quoi que ce soit qui représente une épreuve, et tu te dis, inna lillah, j'appartiens à Allah. Celui qui me convoque appartient à Allah. La convocation appartient à Allah. Tout ce qui se dira appartient à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et nous retournerons tous vers Allah. Imaginez l'effet que ça fait au cœur quand on médite sur le sens de cette parole. Quand on le dit avec foi et sincérité. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers Allah que nous y retournerons. Cette personne dormira tranquillement, wallahi azim. Parce qu'il s'est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a peur de rien. Il sait qu'il appartient à Allah. Que celui qui le convoque appartient à Allah. Non? Que ceux qui le guettent appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils retourneront tous vers Allah. Donc c'est là. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innama sabru. Certes, l'endurance prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle que l'on se doit d'avoir au premier choc. Parce que l'endurance qui vient après, même quand on va en prison, tu as chaud au cœur, tu peux agir autrement. Mais quand on te ferme déjà dans ta cellule, pour finir, tu vas endurer. Mais cette endurance, tu n'as aucune récompense. Parce que c'est un bienfait d'Allah pour toi. Sans cette endurance, tu te serais peut-être suicidé. Donc cette endurance, c'est un bienfait d'Allah. Il ne peut pas te récompenser pour t'avoir accordé ce bienfait. Tu n'as fait aucun effort. Mais l'endurance qui te fait bénéficier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est la résultante de tes propres efforts. quand ta passion veut que tu agisses et que tu fais dominer ta foi sur ta passion et décides d'adopter l'attitude prescrite par Allah, enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à cette situation et non celle que ta passion, ceux qui t'endurent, te dictent. C'est là qu'intervient l'endurance et c'est cette endurance qui est récompensée. قال عسى الله ان جعلك ممن اذا اوتي صبر شكر واذا ابتلي صبر. Et l'endurance aussi repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'endurance, ou alors l'endurance est de trois catégories. La première catégorie, c'est endurer pour ce qui est des actes d'adoration. Pour prier aux heures précises, comme Allah l'a prescrit, il faut être endurant. Il faut avoir le courage d'abandonner certains intérêts personnels. Et cela nécessite l'endurance. Donc ça, c'est la première catégorie d'endurance. Et il faut absolument ces trois pour qu'une personne soit qualifiée d'endurance. C'est pour ça que on peut croire qu'une personne est endurante, alors qu'en réalité, islamiquement, ce n'est pas une personne endurante, parce qu'il faut absolument les trois catégories pour qu'une personne soit un endurant. Donc, la première catégorie, c'est se montrer endurant dans la mise en pratique des injonctions divines. La deuxième endurance, c'est l'endurance pour ce qui est du fait de s'écarter des péchés. Ne pensez pas que ceux qui ne commettent pas les turpitudes n'ont pas envie de commettre ces turpitudes. C'est parce qu'ils sont endurants. C'est parce qu'ils font dominer leur foi sur leur passion et se laissent guider par leur foi et non par leur passion. Et cela nécessite l'endurance. Donc il faut être endurant. Si on n'est pas endurant, on va faire la riba, surtout en ce moment. Si on n'est pas endurant, on va faire la riba. Si on n'est pas endurant, on va mentir. Si on n'est pas endurant, on va entretenir la rumeur. Tout ça nécessite l'endurance. Si on n'est pas endurant, on ne va pas éduquer nos enfants comme il se doit. Surtout avec tout ce programme mis sur pied par le diable et ses adeptes pour détourner les hommes. Parce qu'il faut qu'on soit clair. On ne peut échapper au plan mis sur pied par les ennemis de l'islam que si on prend conscience. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a été explicite. Il dit « Inna shaytana lakum aduun ». Taïf. Mada. Fattakhidhuhu aduwan. Le diable est pour vous un ennemi. Considérez-le comme un ennemi. Père, quand tu es en face d'un ennemi, est-ce que tu peux dormir? Quand tu sais que c'est un ennemi, que tu considères comme un ennemi, est-ce que tu peux dormir? Pourquoi nous dormons alors que nous sommes avec le diable, partout où nous sommes? Pourquoi nous dormons alors que nous sommes avec le diable? Quand Allah utilise ces thèmes, c'est des thèmes que nous comprenons pour qu'on sache. Il utilise les expressions que nous comprenons. Il dit « Inna shaytana lakum aduun, fattakhizuhu aduwa ». Le diable est pour vous un ennemi. Considérez-le comme un ennemi. Nous connaissons tous que le diable est un ennemi, mais combien sont ceux qui considèrent le diable comme un ennemi? Parce que quand on considère quelqu'un comme ennemi, on ne peut pas être insouciant vis-à-vis de lui et inattentif. On est toujours sur ses gardes. Et pourquoi face au diable, nous ne nous comportons pas de cette façon? C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que nous avons le résultat que nous avons. Nous nous sommes fait détourner, nous ont fait avoir. Nous avons été détournés de l'objectif. À l'époque, ceux qui avaient été éduqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivaient pour ce pourquoi Allah les a créés. Ils avaient compris le but de la création et ils vivaient pour cela. C'est pour ça. Ça vous étonne, mais ça n'étonne pas quand on comprend. Quand on vous dit que lorsqu'il y avait une bataille et qu'il fallait que les gens contribuent, il y avait des compagnons qui venaient avec tous leurs biens. Parce qu'ils avaient compris. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Ils avaient compris qu'ils vivaient pour ça. Allah les a créés pour l'adoration et c'est une occasion de donner sur le sentier d'Allah et donner tout ce qu'ils avaient. On peut faire ça aujourd'hui sans avoir le même résultat. Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils avaient donné tout ce qu'ils avaient? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint un degré d'élévation d'âme. Et les choses se passaient comme il se doit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوده الله خيرا منه. Ils avaient compris, c'était soudé dans le cœur. Que quiconque délaisse une chose pour Allah, c'est pourquoi il délaissait ses biens. Il délaissait de ses jouir, de se mettre à l'aise avec ses biens pour mettre ses biens sur le sentier, pour les dépenser sur le sentier d'Allah. Allah dit que le prophète dit quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace cela par ce qui est meilleur. Donc ils avaient compris et ils vivaient pour ce pourquoi Allah les a créés. Mais aujourd'hui nous nous sommes fait avoir par le diable et ses adeptes, par les médias. Et regardez l'aspiration que nous avons aujourd'hui. Chacun veut avoir une belle maison, une belle voiture, mettre sa famille à l'aise. Parce qu'on n'a pas compris le sens de mettre la famille à l'aise. On n'a pas compris que mettre la famille à l'aise, c'est leur donner une éducation islamique. Parce que si tu laisses cet héritage, si c'est cet héritage que tu laisses à ta famille, tu leur as laissé une richesse. Méditez dans un verset dans Surat Al-Kahf. Lorsque Moussa alayhi salam a rencontré Khidr, méditez bien sur ce qui s'est passé. La troisième action qu'il a menée, qui a provoqué la réaction de Moussa, ils se sont séparés, c'était quoi? Lorsqu'ils ont entré dans un village, Fawajada fi hajidara yuridu an yankadda fa aqama. Moussa a réagi, il a dit Hadha firaqu bayni wa bayna sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati alayhi sabra. Qu'est-ce qu'il a dit des deux jeunes? Wa amma al-ghulam wa amma al-ghulamayn fa kana abawahuma saliha wa kana tahtahuma kanzun. Écoutez bien, hein? Il dit quant aux deux enfants dont on a relevé le mur, ils avaient un père qui était pieux. Écoutez bien, c'est pas à cause des enfants. C'est parce qu'ils avaient un père qui était pieux. Et un père pieux, c'est celui qui a donné l'éducation islamique à ses enfants. Et regardez comment les enfants bénéficient. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de sa progéniture après sa mort. Il y avait un trésor qu'ils allaient. Allah subhanahu wa ta'ala attendait qu'ils grandissent pour dévoiler ses trésors. Est-ce que c'est parce que son père avait passé tout le temps à amasser ses trésors, à travailler, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il existe ces trésors en dessous de leur maison et attendre qu'ils grandissent pour faire ressortir ces trésors? Allah a envoyé les gens venir protéger ces trésors quand ça allait apparaître. Il a envoyé Khidr venir construire et lever le mur pour cacher ses trésors. À cause de quoi? Wakana abuhuma saliha. Parce qu'ils avaient un père pieux. Donc, nous devons comprendre l'objectif de notre existence et donner cette éducation à nos enfants. C'est-à-dire l'éducation qui leur permet de rester fixés sur l'objectif. Les médias sont venus avec les chaînes nous détourner de cet objectif. Pour nous, aujourd'hui, le bonheur, ce n'est plus accéder au paradis. Alors qu'il est dit dans le Coran que le bonheur, c'est accéder au paradis. Le bonheur absolu, c'est ça. Mais aujourd'hui, pour nous, le bonheur, ce n'est plus ça. C'est de vivre à l'aise sur terre, être bien, avoir les moyens, avoir les grosses voitures. Où est-ce qu'on a eu cette éducation? C'est à travers la télé. Aujourd'hui, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est pieux, parce qu'il est soumis, parce qu'il étudie. Non, on le respecte parce qu'il a une voiture, parce qu'il a une renommée. Où est-ce qu'on a eu tout cela? C'est parce que nous n'avons pas considéré notre ennemi comme ennemi et il nous a eu. Et nous ne pouvons être à l'abri que si nous le considérons comme un ennemi et restons sur nos gardes. On parlait de l'endurance. On parlait de la deuxième catégorie qui est le fait de se montrer endurant vis-à-vis des interdictions. Parce que si on n'est pas endurant, on va tomber dans les interdictions. Et la troisième catégorie de l'endurance, qui est, qui est une endurance obligatoire aussi, c'est As-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. C'est se montrer endurant vers les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font mal. Vers les décrets d'Allah qui font mal. Parce qu'il y a certains décrets qui font mal. Quand vous avez un fils que vous aimez, qui est votre cœur, comme on dit souvent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le reprenne, ça fait quand même mal. Mais quand on est croyant, on se montre endurant. Lorsqu'on vient annoncer la mort de son enfant, la mort d'un proche qu'on aime, la première chose qu'il vient nous dire, c'est qu'en réalité, moi j'appartiens à Allah. Cet enfant appartenait à Allah. Et nous allons tous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais encore rappeler une leçon ici, que je rappelais ce matin aux femmes. L'importance de la maîtrise des expressions enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Allah subhanahu wa ta'ala. La quintessence que renferment ces expressions. Il est étonnant de voir que aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, les musulmans disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et après remplissent les funérailles Naam, d'innovation. Ça veut dire que même quand ils ont dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi Allah a légiféré à l'homme de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lorsque quelqu'un meurt. C'est une façon de te rappeler que toi là, tu appartiens à Allah. Ceux qui viendront t'assister au deuil appartiennent à Allah. Celui qui est mort appartient à Allah. Et nous allons tous retourner vers Allah. Ça veut dire que chacun d'entre nous sera rétribué en fonction de ce qu'il aura œuvré. Donc fais attention. Mais les gens ne comprennent pas ce message. Fais attention, fais gaffe. Tu appartiens à Allah. Même celui qui vient t'assister appartient à Allah. Celui qui est mort appartient à Allah. Mais si nous appartenons tous à Allah et que nous allons retourner vers Allah, faisons comme Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. C'est ce que ça veut aussi dire. Mais qui sont ceux qui comprennent comme ça? Qui sont ceux qui méditent lorsqu'ils prononcent ces expressions? Vous voyez pourquoi nous devons étudier? Pour comprendre tout ça. Il y a des paroles que nous prononçons chaque jour, qui sont des paroles lourdes de sens, mais qui ne nous sont pas utiles parce que nous n'avons pas compris la quintessence de ces mots, de ces expressions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être le nom de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Donc, la troisième catégorie, c'est « As-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima ». C'est se montrer endurant vis-à-vis des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font mal. Ensuite, le cheikh dit, فَإِنَّ هَاُولَا إِسْتَلَاثَ نَا وَإِذَا أَذْنَبَ إِسْتَغْفَرَ. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse être du nombre de ceux qui, lorsqu'ils pêchent, retournent repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Et comment cela mène au bonheur? Parce que, en réalité, et comme ça, je l'ai toujours dit et j'aime le rappeler, la pire des personnes en islam, c'est pas celui qui commet le péché. Parce que, si nous sommes sur terre aujourd'hui, c'est le fruit du péché. Allez, ça qu'est-ce que ça dit? Non? Mais est-ce que celui qui a commis ce péché est la pire des personnes? Au contraire, il fait partie des meilleurs des hommes. Qu'est-ce qui a fait de lui des meilleurs? Qu'est-ce qui lui a fait garder cette posture? C'est la tauba, la repentance. Taïf, regardez bien. C'est lui qui est la plus des créatures, c'est qui? C'est Iblis. Non? C'est Iblis. Entre lui et Adam, en matière d'adoration, qui dépassait l'autre? Iblis adorait Allah avant même que Adam ne soit... ne soit crié. Méditez bien. Iblis a péché. Non? Avant que Adam ne pêche. Adam a péché avant lui, mais il s'est fait pardonner. Et Adam a péché après lui, mais il s'est fait pardonner. Iblis a péché. Au lieu de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est montré ingrat et s'est enflé d'orgueil. Et qu'est-ce que l'orgueil? Le prophète sallam l'a bien défini. Non? C'est le refus de la vérité et le mépris des personnes. C'est ça. Quand tu reconnais que tu as fait de mal et ne te répands pas, c'est refuser la vérité. Parce que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux pécheurs, c'est la tauba. Donc, quand tu ne te répands pas, Tu es un orgueilleux. C'est ça l'orgueilleux islamique, en islam. C'est celui qui ne se répand pas. Donc, la pire des choses en islam, c'est pas commettre le péché. Ce n'est même pas commettre le shirk. Le shirk fait partie des grands péchés et des graves péchés. Et si quelqu'un meurt dans cet état, elle est vouée à, cette personne est vouée à l'enfer. Mais si quelqu'un se répand, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance. Ça veut dire que le pire des péchés, en fait, ce n'est pas seulement le shirk, mais c'est de commettre le shirk sans se repentir. Ça veut dire que la pire des choses en islam, c'est le fait de ne pas se repentir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut toujours revenir repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout et surtout lorsqu'on se rend compte qu'on a commis le péché. Et puisqu'on n'est pas toujours sûr de se rendre compte qu'on a commis le péché, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'istighfar. Et prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne vis-à-vis de ce que nous avons fait sciemment et de ce que nous avons fait inconsciemment. C'est pour ça que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé du shirk, les compagnons étaient épris de peur. Parce qu'ils ont compris, à travers l'explication donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se pourrait que personne ne soit réellement à l'abri du shirk. Mais comment penser qu'on est à l'abri du shirk quand Abul Anbiya, qui Abul Anbiya, le père de la Hanafiya, Ibrahim alayhi salam, quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant « وَجِنُوبْنِي وَبَنِيَا أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ » et préserve-moi ainsi que ma progéniture de l'adoration des idoles. Ibrahim alayhi salam, voilà sa prière. Qu'en est-il de nous autres? Alors qu'il était un prophète. Donc, c'est pour dire que personne n'est à l'abri. On peut tomber dans le shirk inconsciemment. On peut tomber dans le shirk inconsciemment. Et c'est même l'occasion pour moi. Jusqu'à hier, j'ai médité sur une chose. Ici, où est le grand frère Moukadami? Nous avons souvent l'habitude de jouer avec quelque chose. Et hier, je réfléchissais par rapport à ça et je me demandais si c'était à sa place. Et après, je me suis rendu compte que c'est une erreur grave. On a souvent l'habitude de faire comme si le grand frère avait certains pouvoirs. En jouant, on le fait en plaisantant. Ceux qui ont mécru et que le verset est descendu et a attesté de leur mécréance, qu'est-ce qu'ils ont donné comme excuse? C'est donc quoi la différence entre nous quand nous faisons ces plaisanteries avec les derniers? On ne faisait que plaisanter en disant des paroles futiles. Mais quand on prononce des paroles de mécréance consciemment, c'est la mécréance, même en joie. Et ça, c'est encore une preuve que nous avons besoin d'être en contact permanent avec le rappel et la science. Même celui qui vous parle est concerné. C'est pour ça que nous devons faire attention et méditer par rapport à tout ça. Maintenant, dites-moi, quelle est la différence entre nous et ces derniers qui ont dit « Innama kunna nakhudu wa nal'ab ». Qu'est-ce qu'on fait souvent? On pense souvent plaisanter, mais est-ce qu'on plaisante avec le kufr? Ce n'est pas à sa place. C'est pour ça que nous avons besoin de nous repentir. Et méditer sur les adhkars enseignés par le prophète sallam. Ça nous reconnecte à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces invocations-là, ça nous renvoie à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il avait parlé du shirk, les compagnons ont compris que le shirk est tellement caché et a des formes si bien que il peut arriver sur certaines formes sans qu'on ne se rende compte. C'est pour ça qu'ils ont été épris de peur. Même Abu Bakr était dépassé, il a dit au prophète sallam, comment donc s'en sortir? Le prophète a dit, ne vais-je pas vous montrer une parole que si vous le dites, Et Annie, très souvent, cette parole chassera le shirk apparent et le shirk caché. Il a dit, قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'attribuer un associé tout en étant conscient et le fait de tomber dans cela inconsciemment. Donc ça fait partie des invocations que nous devons multiplier. Nous devons de nous repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons besoin d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait fermé la porte de la Touba. Si Allah avait créé, nous avait créé tel qu'il nous a créé, envoyé le prophète et le Coran, et avait fermé la porte de la repentance, il serait dans son droit. Parce qu'il nous a mis en garde. Il nous a parlé du diable. Il a envoyé le prophète sallam en tant que miséricorde. Il nous a fait savoir ce avec quoi il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a révélé le Coran. Donc, même après ça, on ne devrait plus avoir d'excuses. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il a créé mieux que qui ce soit. Il connaît notre faiblesse. C'est que malgré tout, et malgré tout les mises en garde, il se peut qu'on tombe dans le péché. C'est pour ça qu'il a ouvert cette porte de miséricorde qui est la porte de la repentance. Et nous devons de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez l'importance de ces trois choses citées par le chef dans l'invocation. Et ça confirme ce que nous disions. Le chef veut que nous soyons des personnes bénies en suivant cette voie. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة كاسة توا صن لباز en fait quand on parle de عنوان c'est quelque chose qui indique يعني c'est comme une adresse donc c'est comme le chef dit ces trois choses sont l'adresse du bonheur tu recherches le bonheur voilà le chemin du bonheur كن ممن إذا أوتي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Alors sois du nombre de ceux qui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un bienfait, se montrent reconnaissants. Lorsqu'ils sont éprouvés, se montrent endurants. Et lorsqu'ils commettent un péché, retournent repentants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crois que nous sommes arrivés. On finit cette page. Non? Taïf. Si le temps, c'est votre temps. On fait comment? Taïf. Barakallahu fiik. Atmin. Non. قال الشيخ اعلم ارشدك الله لطاعته sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente vers la soumission. Ici, regardez la miséricorde du Cheikh. Il veut nous enseigner quelque chose, mais même après avoir commencé, il prie encore pour nous. Qu'Allah t'oriente vers le chemin de sa soumission. Ça veut dire que le Cheikh montre le chemin de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala en priant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente vers ce chemin. Ça veut dire que, en réalité, il ne reste plus qu'une chose. Parce qu'il y a des choses, lorsque ces choses sont réunies, on retrouve le droit chemin. Lorsque la volonté y est, et on prie. Le Cheikh a déjà prié pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers le droit chemin. Il nous a également montré le droit chemin parce que ce vers quoi il va nous orienter, c'est le droit chemin à la lumière du Coran et de la Sunna. Ça veut dire que ce qui reste, c'est quoi? C'est la volonté. Et c'est ce qui, le chef ne peut pas nous aider, il ne peut pas nous donner la volonté. C'est nous qui devons avoir la volonté. La prière y est. Le chemin est exposé clairement et il ne reste plus que la volonté pour suivre. Qala ilam, sache. أرشدك الله لطاعتك الله سبحانه وتعالى تورينت سوى الشمين دي سا soumission أن الحنفية ملة إبراهيم حنيفة. Il faut savoir que ce qu'on appelle Al-Hanafiyya, c'est la voie d'Ibrahim. Non, c'est la voie d'Ibrahim alayhi salam. Parce que c'est cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim de suivre. Et c'est le chemin de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hanafiyya, c'est le fait de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne vouer l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on appelle la voix d'Ibrahim alayhi salam al-Hanafiyya, c'est la voix de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ إِلَّمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Maintenant, le chef explique ce que c'est que cette voie d'Ibrahim. Il nous a fait comprendre que Al-Hanafiyya, c'est la voie d'Ibrahim. Pourquoi le chef fait cette précision avant d'expliquer? Pour que tu saches que, est-ce que la voie d'Ibrahim peut être la voie du faux? C'est la voie qu'Allah a ordonnée à tous les prophètes qui sont venus après lui de suivre. Donc c'est la voie authentique que nous devons tous de suivre. Maintenant, il nous explique ce que c'est que cette voie. « Qala anta abudallaha wahdahu » Non ?« Qala anta abudallaha » C'est le fait que tu voues l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui attribuer d'associé. C'est ça Al-Hanafiyya. Anta abudallaha wahdahu mukhlisallahu d-din. C'est le fait que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant l'adoration exclusivement sans lui attribuer d'associé. Et quand on parle d'attribuer l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'on attribue l'associé, on attribue l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala sous trois formes. On peut attribuer l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. On peut attribuer l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Et on peut attribuer l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est pour ça que nous devons de connaître Allah. De savoir qui est Allah, de maîtriser la seigneurie, de connaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas donner quelque chose qui relève de la seigneurie à un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une peur qui doit être vouée exclusivement à Allah et cette peur relève de l'adoration. Celui qui ne connaît pas cette peur-là peut la vouer à un autre et tomber dans le shirk. Donc, c'est ça Al-Hanafiyya, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant l'adoration exclusivement sans attribuer d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, anta abudallaha wahdahu. Wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas wa khalaqahum laha. Wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les hommes. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Taïd, ma huwa dalil. Il y a deux choses ici. Wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas. C'est quoi la preuve? Wa khalaqahum laha. Ma huwa dalil? Naam, Muhammad. أريد الدليل أو هنا الآن أريد الدليل وبذلك خلق الله وبذلك خلق جميع الناس c'est pour ça qu'il a créé tous les hommes. C'est quoi la preuve? Non. شوف là, écoutez la question. Le cheikh dit que وبذلك أمر جميع الناس c'est ce qu'Allah a ordonné à tous les hommes. وخلقهم لها. Vous allez constater que les savants sont précis dans leurs expressions, dans les expressions qu'ils utilisent. Parce qu'ils aiment que leurs expressions s'accordent avec les preuves qu'ils vont citer. Ahsan. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. C'est quoi la preuve qu'Allah ta'ala wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ad-din. Allah dit qu'il ne leur avait ordonné que de l'adorer en lui voyant qu'il était sincère et exclusif. Ce n'est que ça qu'il a ordonné. Autre chose, il n'a pas ordonné. Tout ce qu'il a ordonné aux hommes, c'est de l'adorer en lui voyant qu'il est sincère et exclusif. C'est ce qu'il leur a ordonné. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il les a créés? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَبِذَلِكَ أَمَرَ جَمِيعًا وَخَلَقَهُمْ لَهَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Vous voyez comment les expressions et les thèmes du chef s'accordent avec les dalils. انتهى طيب ولعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.